Idaho se tourna vers Siona, les sourcils froncés. Il avait presque peur de lui poser la question. Était-ce le fils de mon prédécesseur? Il connaissait pourtant déjà la réponse. Le visage au contour familier, le génotype ne pouvait laisser aucun doute. C'est moi-même, enfant. La découverte lui laissait un vide au creux de l'estomac, une sensation de frustration. Quelle responsabilité ai-je dans tout cela? Siona se prit la tête à deux mains et baissa les épaules. La scène ne s'était pas du tout passée comme elle l'avait imaginé. Elle se sentait trahie par son désir de vengeance. Idaho n'était pas seulement un gola, un être artificiel, indigne de considération. Elle l'avait senti projeté contre elle tout à l'heure, à bord de leur nid. Elle avait vu l'émotion dans son visage. Et cet enfant? Qu'est-il arrivé à mon prédécesseur? Demanda Idaho d'un ton calme mais accusateur. Elle baissa les mains et sur son visage il lut une fureur rentrée. « Nous ne le savons pas avec certitude, » fit-elle. « Mais il est entré un jour dans la citadelle pour ne plus jamais en ressortir. » « C'était son enfant ?» Elle acquiesça muettement. « Vous êtes sûr que vous n'avez pas assassiné mon prédécesseur ?»«
Je vous... »
Elle secoua la tête, choquée par ses doutes, par les accusations latentes qu'elle lisait en lui. Cet enfant, c'est la raison de notre présence ici?
Oui,
fit-elle en déglutissant avec peine. Que voudriez-vous que je fasse pour lui? Elle haussa les épaules, démoralisée à l'idée de ce qu'elle avait fait. Et sa mère? Interrogea Idaho.
Elle vit dans cette rue avec les autres?
Siona désigna du menton la direction par où l'enfant s'était enfui. Les autres?
Il y a un frère aîné, une sœur. Si vous voulez, je pourrais organiser...
Non, le gamin a raison, je ne suis pas son père.
Je suis navré, murmura Siona. Je n'aurais jamais dû faire ça.
Qu'est-ce qui l'a poussé à choisir cet endroit? Demanda Idaho.
Vous voulez dire... Le père, votre...
Mon prédécesseur.
C'est le village de Hirti, et elle ne voulait pas le quitter. C'est du moins ce que les gens disent.
Hirti. C'est la mère?
Sa femme, selon l'ancien rite, celui de l'histoire orale.
Idaho regarda les façades de pierre des maisons qui entouraient la place, les rideaux aux fenêtres, les perrons étroits. Il vivait donc ici?
Quand il le pouvait?
De quelle manière est-il mort, Siona?
Sincèrement, je l'ignore. Mais il y en a d'autres que le ver a tué, nous en avons la certitude.
Comment pourriez-vous avoir cette certitude? Il posa sur son visage un regard d'une telle intensité qu'elle fut obligée de détourner les yeux.
« Je ne mets pas en doute les récits de mes ancêtres. Les témoignages sont fragmentaires. Une conversation par-ci, une allusion par-là, mais j'y crois. Et mon père y croit également.
Monéo ne m'a pas parlé de ça. »
« Il y a une chose que l'on peut dire des Atréides, »
murmura Siona.
« Notre loyauté ne peut être mise en doute. Nous tenons toujours parole. »
Idaho ouvrit la bouche pour parler, mais la referma sans avoir dit un mot. Évidemment, Siona également est une Atréide. Cette pensée l'ébranla. Il le savait déjà, mais il n'avait pas voulu l'accepter. Siona était une rebelle d'un genre un peu particulier, une rebelle dont les actions étaient presque cautionnées par l'étau. Les limites de cette tolérance n'étaient pas claires, mais Idaho en percevait confusément l'existence. « Il faut la protéger, » avait dit Leto. « Elle a une épreuve à subir. » Il tourna le dos à Siona. « On ne peut jamais être sûr de rien, » murmura-t-il. « Des informations fragmentaires, des rumeurs. » Elle ne répondit pas. « C'est un Atréide, » poursuivit Idaho.
« C'est le ver, » s'écria Siona.
Et le venin contenu dans sa voix avait quelque chose de presque palpable. Votre fichue histoire orale n'est qu'un tissu d'antiques commérages, accusa le Duncan. Il faut être idiot pour y croire.
Vous lui faites encore confiance, mais cela changera.
Il se tourna brusquement pour la foudroyer du regard. Vous ne lui avez jamais adressé la parole.
Si, quand j'étais enfant.
Vous êtes encore une enfant. Il représente tous les Atréides qui ont existé, tous. C'est quelque chose de terrible, mais j'ai connu beaucoup d'entre eux. C'étaient mes amis.
Siona se contenta de secouer la tête. De nouveau, Idaho se détourna d'elle. Il se sentait vidé de toute émotion, mentalement asséché. Malgré lui, il se mit à traverser la place dans la direction de la ruelle où l'enfant avait disparu. Siona courut après lui et marcha à son côté, mais il l'ignora. La ruelle était étroite, encaissée entre deux murs de pierre. Les portes des maisons, toutes closes, étaient en retrait sous leurs porches voûtés. Les fenêtres avaient la même forme, en réduction, que les portes. Sur leur passage, des rideaux s'écartaient imperceptiblement. Au premier croisement, Idaho s'arrêta et regarda sur la droite, dans la direction où le jeune garçon avait disparu. Deux vieilles femmes aux cheveux gris, en longues jupes noires et chemisiers verts, se tenaient à quelques pas de là, discutant à voix basse. Quand elles virent Idaho, elles se turent et le dévisagèrent, sans chercher à dissimuler leur curiosité. Il leur rendit leur regard, puis scruta la ruelle. Elle était déserte. Idaho reprit son chemin et passa à un pas des deux femmes, qui se rapprochèrent l'une de l'autre, puis se tournèrent pour le suivre des yeux. Elles n'accordèrent pratiquement aucune attention à Siona, qui continuait de marcher en silence à côté de Duncan, avec sur son visage une étrange expression.
De la tristesse, se demanda Idaho. Des regrets? De la curiosité?
C'était difficile à dire.
Et il s'intéressait pour l'instant davantage aux porches et aux fenêtres devant lesquelles il passait.
« Étiez-vous déjà venu dans ce village ? » demanda-t-il.
« Non. »
Elle avait dit cela à voix basse, comme si sa propre voix lui faisait peur. « Pourquoi suis-je dans cette rue ?» se demanda Idaho. Et en même temps qu'il se posait la question, il avait trouvé la réponse. « Cette femme, cette Irti, à quoi peut-elle ressembler pour m'avoir fait venir jusqu'à Goigoa ?»
Le coin d'un rideau sur sa droite se souleva et Idaho aperçut un visage, celui du jeune garçon. Le rideau retomba puis fut de nouveau écarté, laissant voir une femme qui se tenait derrière la fenêtre. Idaho, bouche bée, contempla son visage en avançant d'un pas. Ses traits qu'il connaissait bien, il ne les voyait plus que dans ses plus secrets fantasmes. Ce tendre ovale, ses yeux noirs, ses lèvres pleines et sensuelles.
« Jessica, » chuchota-t-il.
« Qu'avez-vous dit ?»
lui demanda Siona.
Le Duncan était incapable de répondre. Ce visage de Jessica était ressuscité d'un passé qu'il avait cru à jamais disparu. Mais il ne s'agissait que d'une bizarrerie génétique, la mère de moi de Dib recréée dans une chair nouvelle.
L'apparition à la fenêtre referma le rideau, laissant graver dans l'esprit du Duncan une image qui n'était pas prête, il le savait, de s'effacer. Elle était plus vieille que la Jessica qui avait partagé avec lui les dangers de Dune. Il y avait des rides au coin de ses yeux et de ses lèvres, et sa silhouette était un peu plus lourde.
Plus maternelle, se dit Idaho.
Puis, lui ai-je jamais avoué à qui elle ressemblait?
Siona le tira par la manche. Vous voulez entrer? Lui parler?
C'était une erreur.
Il se tourna pour redescendre dans la direction d'où ils étaient venus lorsque la porte de la maison de Hirti s'ouvrit brusquement. Un jeune homme apparut. Il referma la porte derrière lui et s'approcha du Duncan qui s'était retourné. Il devait avoir environ 16 ans et Idaho n'eut aucun doute sur son identité. Ses cheveux noirs de caracoule, ses traits anguleux.
« Vous êtes le nouveau ?» fit l'adolescent dont la voix était déjà celle d'un homme.
« Oui, » réussit à dire Idaho.
« Pourquoi êtes-vous venu ?»«
L'idée n'est pas de moi. »
Les mots avaient eu moins de mal à sortir, poussés par le ressentiment qu'ils nourrissaient à l'encontre de Siona. Le garçon s'adressa à Siona. « Nous avons appris la mort de mon père. »
Elle hocha la tête.
Le garçon se tourna de nouveau vers Idaho.
« Allez-vous-en, s'il vous plaît. » Et ne revenez plus. Vous faites de la peine à ma mère.
Bien sûr, fit Idaho.
Veuillez m'excuser auprès de Damirti pour cette intrusion. J'ai été amené ici contre mon gré.
Qui vous a amené ?
Les truitesses. Le garçon hocha la tête d'un mouvement bref, puis il s'adressa à Siona.
Je croyais qu'on vous apprenait à traiter les vôtres avec un peu plus d'égard.
Sur quoi il fit volte-face et rentra dans la maison en refermant la porte derrière lui avec fermeté.
Idaho reprit le chemin par où ils étaient venus, entraînant Siona par le bras. Elle fit un faux pas, retrouva son équilibre et dégagea son bras.
Il m'a prise pour une truitesse.
C'est normal, vous en avez la tête. Il se tourna vers elle.
Pourquoi ne m'aviez-vous pas dit que Hirti était une truitesse ?
Je n'ai pas jugé cela important.
Hein ?
C'est comme cela qu'ils se sont connus.
Ils étaient revenus au croisement. Au lieu de se diriger de nouveau vers la place, Idaho prit la rue qui montait vers les jardins et les vergers. Il se sentait encore sous l'empire du choc, ses perceptions hésitant devant trop de choses qu'elle ne parvenait pas à assimiler.
Le haut de la ruelle était bloqué par un muret. Il passa par-dessus, entendit Siona qui suivait. Tout autour d'eux, les arbres étaient en fleurs. Grandes corolles blanches au cœur orangé, où des insectes brun foncé étaient à l'œuvre. L'air était saturé de bourdonnements d'insectes et de parfums floraux qui rappelaient à Idaho la jungle de Caladan. Il s'arrêta sur la crête d'une colline d'où l'on voyait bien les contours nets et rectangulaires de Goigoa. Les toitures étaient noires et plates. Siona s'assit dans l'herbe épaisse du sommet, les genoux dans ses mains.
« Ce n'était pas ce que vous aviez l'intention de faire, n'est-ce pas ?» lui demanda Idaho.
Elle secoua la tête sans répondre, et il vit qu'elle était au bord des larmes.
« Pourquoi le haïssez-vous tellement ? » reprit-il.
« Nous n'avons pas de vie à nous. »
Idaho regarda les toits du village au-dessous d'eux.
« Il y a beaucoup de villages comme celui-ci ? »
« Il est à l'image de l'Empire du Vert. Que lui reprochez-vous ? Rien du tout, si l'on s'en contente. »
« Vous voulez dire que c'est tout ce qu'il autorise ? »
Ça et quelques cités marchandes.
On.
On m'a dit que même les capitales planétaires ne sont rien d'autre que de grands villages.
Et je vous redemande, que reprochez-vous à cela?
C'est une prison! Quittez-la! Pour aller où? Comment? Vous croyez que nous n'avons qu'à embarquer sur un vaisseau de la guilde pour aller où nous voulons?
Elle montra du doigt Goigoa, l'endroit où s'étaient posés leurs nids, les truitesses qui montaient la garde à proximité.
Nos gardiens ne nous laissent pas partir.
Les gardiens peuvent voyager. Ils vont où ils veulent.
Ils vont là où le ver les envoie.
Elle pressa son visage contre ses genoux et parla d'une voix étouffée.
Racontez-moi. Comment était-ce dans l'ancien temps?
C'était différent. Souvent très dangereux.
Il laissa un instant errer son regard sur les vergers et les prairies que délimitaient soigneusement les murets. Ici, sur Dune, il n'y avait pas de barrière fictive séparant les propriétés. Tout appartenait au duché des Atreides.
À l'exception des Fremen.
Oui, mais ils savaient rester à leur place, en deçà de tel escarpement ou à l'horizon où les dunes blanchissent.
Ils allaient où ils voulaient.
À l'intérieur de certaines limites.
Beaucoup d'entre nous ont la nostalgie du désert,
murmura-t-elle. Vous avez le sarir ?
Elle releva la tête pour le foudroyer.
Ce mouchoir de poche ?
1500 kilomètres sur 500, ce n'est pas si petit. Elle se remit debout.
Avez-vous demandé au ver pourquoi il nous tient ainsi prisonniers ?
C'est la paix de l'étau, le sentier d'or destiné à assurer notre survie.
Voilà ce qu'il dit.
Savez-vous ce qu'il a expliqué à mon père ?
J'écoutais aux portes quand j'étais petite.
Je l'ai entendu.
Que disait-il ?
Qu'il nous évite toutes les crises pour restreindre la montée de nos forces. Il disait, l'affliction peut soutenir les gens, mais je suis à présent la seule affliction. Les dieux peuvent devenir des afflictions. Ce sont ces paroles exactes, Duncan. Le ver est un fléau.
Idaho ne mettait pas en doute l'authenticité de ses propos, mais il en était peu touché. Il pensait plutôt au Corino qu'il avait reçu ordre de tuer. En fait d'affliction,
Ce Corino, descendant d'une famille qui avait jadis régné sur l'Empire, lui était apparu comme un quinquagénaire bedonnant, assoiffé de pouvoir, qui ne cessait de conspirer pour avoir de l'épice. Idaho l'avait fait abattre par une truitesse, ce qui avait piqué la curiosité de Moneo à son retour.
« Pourquoi ne l'avez-vous pas tué vous-même ? » avait demandé le majordome.
« Je voulais voir les truitesses à l'œuvre. »
« Et votre impression ?»«
Efficace. »
Mais la mort de ce Corino avait communiqué à Idaho un sentiment d'irréalité. Un petit homme obèse gisant dans une mare de son propre sang. Une ombre impersonnelle parmi les ombres de la nuit, dans une rue bordée de places briques. C'était trop irréel. Idaho se souvenait des paroles de Muad Dib. L'esprit nous impose son cadre qu'il appelle réalité. Ce cadre arbitraire est généralement distinct de ce que nous rapportent nos sens. Quelle réalité motivait donc le seigneur Leto? Idaho regarda Siona, dont la silhouette se découpait sur un fond de verger et de vertes collines.
« Redescendons au village, » dit-il.
« Qu'on nous donne nos logements, j'ai besoin d'un peu de solitude. »
« Les truitesses voudraient que nous logions ensemble. »«
Avec elles ?»«
Non, rien que vous et moi. » »«
Pour une raison bien simple. » Le ver désire que je procrée avec le célèbre Duncan Idaho.
J'ai l'habitude de choisir moi-même mes partenaires, grogna Idaho.
L'une de vos truitesses sera certainement ravie de la chose, fit Siona. Elle lui tourna le dos et descendit vers le village. Idaho contempla un instant le jeune corps souple qui oscillait comme les ramures des arbres au vent.
Je ne suis pas son étalon, murmura le Duncan entre ses dents. Il faudrait qu'il le comprenne une fois pour toutes.